chers auditeurs, chères auditrices et tout le monde, eh bien, écoutez, je suis très très heureuse de vous retrouver. Nous sommes déjà le 10 janvier. Ah là là, Noël passé. On a déjà fêté la nouvelle année et je vous redis une très très bonne et heureuse année. On a partagé la galette des rois, vous savez, on en a parlé l'autre fois. Voilà, alors peut-être que vous avez été reine ou roi, on ne sait pas. Et les vacances sont terminées. Eh oui, ça y est, les enfants ont repris l'école et le rythme normal a recommencé. Alors, pour commencer cette nouvelle année, j'ai eu envie de vous faire écouter des ouvertures d'opéra. Alors, les ouvertures d'opéra, mais d'un compositeur italien qui s'appelle Giuseppe Verdi. C'est un compositeur de la période romantique. Il est issu d'une famille très modeste. Il a commencé la formation musicale auprès du chef de l'orchestre municipal de Busseto, petite ville située à quelques kilomètres de Parme et commune de rattachement de Roncole, le hameau où naquit le compositeur. Verdi a étudié au conservatoire de Milan grâce à son protecteur, M. Barezzi, qui découvre le talent du jeune musicien alors qu'il remplace son instituteur à l'orgue du village. Verdi travaille sur les œuvres des grands maîtres allemands, aussi bien qu'italiens. Il présente avec succès à la Scala son premier opéra en 1839, Oberto. C'est une période très difficile pour le compositeur parce qu'il voit disparaître successivement ses deux enfants et sa femme. Mais ce succès n'est rien comparé au triomphe de Nabucco, dont le chœur « Van Pensiero » devient l'hymne symbolisant la résistance de l'Italie face à la domination autrichienne. Le succès est à nouveau rendez-vous pour ses opéras suivants, « Les Lombards » en 1843 et surtout « Macbeth » en 1847 ou alors « Rigoletto », expression des émotions contradictoires qu'il a voulu susciter dans cet opéra. Ou alors le Trouvère, avec un trio amoureux, la Traviata, la célèbre Traviata. Et les créations se poursuivent, notamment à Paris. Verdi est confronté à de nombreuses commandes, mais mène entre-temps une carrière politique en tant que député en Italie. La fin de sa production est marquée par deux œuvres particulières, Othello et Falstaff, qui est une grande comédie lyrique. Dans un dernier éclat de rire, Verdi transmet à un public devenu complice une œuvre enlevée et fidèle à son amour de la voix. C'est avec le premier opéra, donc Oberto, que je voudrais vous faire découvrir Verdi et son ouverture. Alors les ouvertures, il les appelait parfois ouverture ou symphonia. C'était au début de l'opéra. Ça sert à, on va dire, à mettre dans l'ambiance, à entendre des thèmes et des motifs que l'on retrouvera tout au long de l'action de l'opéra. Eh bien, c'est l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, qui va œuvrer pour nous, donc pour Oberto. Je vous livre simplement l'intrigue de cet opéra. En fait, ça se passe au château d'Esolino à Bassano, au milieu du XIIIe siècle. Riccardo de Salengara, amoureux et futur époux de la princesse Cunezza, a trahi Leonora, la fille du comte Oberto, qu'il avait promis d'épouser. Démasqué, son destin bascule quand il tue Oberto et se voit contraint de fuir en Italie. Alors, on ne va pas fuir, mais on va écouter cette magnifique symphonia. C'était la brillante ouverture appelée Sinfonia, donc de Oberto. C'était le premier opéra qu'a créé, qui a écrit justement Giuseppe Verdi. Et on reconnaît bien ce flamboyant de la musique italienne. Ah oui, au début, c'est très très gai. Après, j'ai l'impression qu'il y a... C'est plus triste, hein, puisqu'il y a des tueries, etc. Mais bon, c'est ça, c'est les histoires des opéras. Alors en deuxième, je vous ai choisi, en fin de compte, Rigoletto. Rigoletto, en fait, est tiré du drame de Victor Hugo, Le Roi s'amuse. Ça a été créé en novembre 1832 à la Comédie française, Le Roi s'amuse. La pièce de Victor Hugo met en scène les personnages historiques de François Ier et Triboulet, la fille de ce dernier portant le nom de Blanche. C'est un opéra de la maturité. Rigoletto est le premier volet d'une trilogie dite populaire qu'a écrit Verdi, et ça avec le Trouvère et la Traviata, dont on parlera plus tard. L'ouverture de Rigoletto s'appelle Prélude. Alors là, vous avez pu entendre vraiment, j'ai envie de dire, la force des instruments, des cuivres notamment, trompette, trombone, cor, tout ça, qui font que cette musique est vraiment déjà chaleureuse, je dirais. Et puis aussi, ça emporte vraiment. Alors, on va passer à un autre opéra qui s'appelle Imanas Diere, qui veut dire en fait les brigands en français. C'est un opéra en quatre actes, donc toujours de Giuseppe Verdi, inspiré par la pièce « Les brigands » de Friedrich von Schiller. Alors que Giuseppe Verdi est malade, mais malgré tout, ça a été créé à Londres en juillet 1847. Cet opéra fait partie de ceux composés lors des années de galère, comme il disait lui-même, comme il était malade, qu'il avait des problèmes, tout ça pour écrire... Car pressé par les exigences du succès, il a dû composer sans relâche pour répondre aux sollicitations des directeurs d'opéra. Alors, voyez comme quoi c'est bien de, ben, de faire du beau travail, d'être adulé et tout, mais le pauvre, ben, il en a payé un petit peu les conséquences. Alors, nous allons écouter donc cette ouverture qui s'appelle cette fois Prélude de Imanas Dieri. Et vous allez entendre, il y a au début un magnifique solo de violoncelle. Oui, je vous avais promis un magnifique solo de violoncelle dans ce prélude de l'opéra Imanas Diary. Parlons maintenant de Aïda. Vous avez entendu parler de Aïda? Eh bien, Giuseppe Verdi l'a écrit en 1870, alors qu'il avait 57 ans, et alors qu'il est l'un des compositeurs les plus recherchés du moment. La commande vient du vice-roi d'Égypte, Ismail Pacha, à l'occasion de l'ouverture du nouveau théâtre italien du Caire. En fait, l'idée, c'était de célébrer le canal de Suez, qui sera inauguré un peu plus tard, le 17 novembre 1869. Alors, les thèmes, bien sûr, de cet opéra sont connus. Il va y avoir amour, jalousie, trahison, mort des amants. Alors, l'histoire. Radamès, capitaine de la garde égyptienne, est épris d'Aïda, l'esclave de la princesse Amneris. Amneris, qui est bien entendu, elle aussi, amoureuse du jeune homme. Donc, sa jalousie ne tarde pas à éclater et finit par causer la perte des amants, emmurés vivant dans une crypte. C'est un peu tristouné, hein, vous avouerez. Alors, Aïda a eu quand même un énorme succès lors de sa première au Caire, le 24 décembre 1871. Les costumes, les accessoires, la mise en scène avaient été assurés par un certain Auguste Mariette. N'ayant pu assister à cette première, Verdi ne fut pas satisfait par ce succès parce que la salle n'était composée que de dignitaires invités, d'hommes politiques et de critiques. Mais il n'y avait pas de membres du grand public, comme il disait. Il a donc considéré la première européenne d'Aïda, en fait le 8 février 1872, à la Scala de Milan, comme la véritable création de son œuvre. Eh bien, écoutons tout de suite le prélude de Aïda.
Thank you.
Ce prélude de Haïda était vraiment tout en douceur, complètement différent des autres ouvertures qu'on a écoutées avant. On va revenir un petit peu en arrière, puisqu'on revient vers 1841, pour un opéra en quatre actes qui a été commandé à la suite d'une commande de la Scala de Milan. Il s'agit de Nabucco. La création de cet opéra est a fortiori le lancement de la carrière de Verdi, qui a été permise grâce à la persévérance de l'impresario de la Scala, Bartolomeo Merelli. En effet, en 1838, après le succès du premier opéra de Verdi, opéra, je vous rappelle, qui s'appelait Oberto, Merelli commande au jeune Verdi deux autres opéras. Le compositeur se lance alors dans l'écriture d'une œuvre comique, Un giorno di regno. Mais la perte de sa femme et de ses deux enfants, en l'espace de deux années, entrave son travail, entraînant vraiment une création ratée en 1840. Alors du coup, ses drames familiaux successifs, son humiliation professionnelle, font jurer à Verdi de ne plus jamais rien écrire, et il décide de mettre fin à sa carrière de compositeur avant même qu'elle n'ait commencé. Mais Merelli, au détour d'une rencontre fortuite, près de la Scala, au début de l'année 1841, lui fait parvenir le livret de Sorella et le convainc de faire une dernière tentative de composition d'un opéra. L'insistance de Merelli pousse donc Verdi à reconsidérer sa décision et il se met à composer la musique de Nabucodonosor. L'opéra, créé le 8 mars 1842 à la Scala de Milan, a un succès colossal auprès du public, à tel point qu'il éclipse même totalement les opéras de ses contemporains, comme par exemple Donizetti. Et pourquoi le succès ? Eh bien notamment à cause des aspirations révolutionnaires que cette œuvre véhicule et qui trouve une résonance dans le public lombardien, alors sous contrôle autrichien. Nous allons nous régaler avec cette ouverture qui s'appelle « Sinfonia » de Nabucco. Thank you. C'était la magnifique Sinfonia, donc l'ouverture en fait de l'opéra Nabucco de Verdi. Et vous reconnaissez la force de l'orchestre symphonique avec les cordes, les cuivres, les vents, tout ça qui vraiment nous emporte. Et je vous conseille vivement d'aller au théâtre, soit à Compiègne, soit dans d'autres villes à Paris, où vous voulez écouter vraiment de la musique vivante et aller écouter un orchestre symphonique. En live, c'est formidable. Les Vêpres siciliennes, eh bien, c'est un autre opéra de Verdi. Verdi, en fait, il vient de remporter un immense succès en Italie avec son Rigoletto, d'après Victor Hugo. Il signe un contrat avec l'Opéra de Paris en vue d'une représentation lors de l'exposition universelle de 1855. Ce grand opéra en cinq actes, sur un livret d'Eugène Scribe et Charles Duverrier, sera créé en juin 1855 à l'Opéra de Paris. Les Vêpres siciliennes, en fait, sont un soulèvement, une révolte populaire de l'île de Sicile contre la domination féodale de Charles d'Anjou. Ce sujet possède alors une forte dimension politique, puisque en Italie, plusieurs mouvements prônent l'unification de la péninsule, y compris en prenant les armes contre les forces étrangères qui occupent le pays. Cette aspiration unitaire italienne est alors vue avec bienveillance par Napoléon III après l'engagement du Piémont aux côtés des troupes françaises et anglaises dans la guerre de Crimée. L'ouverture des Vêpres siciliennes, c'est une des plus belles, vous allez voir, et voilà, avec une inspiration mélodique vraiment très très forte. Alors, je vous laisse savourer. Voilà, c'était cette magnifique ouverture des Vêpres siciliennes. Alors, que je vous dise quand même que tous les opéras que je vous propose ce matin ont été enregistrés par le magnifique orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Karajan. Verdi a composé en tout 27 opéras. Alors bien sûr, on ne pourra pas écouter des extraits de chaque, mais je vois pareil que l'heure tourne. C'est chaque fois ma tristesse de regarder l'horloge, mais bon, c'est comme ça, il faut bien s'y faire. Donc on va quand même écouter encore un autre opéra qui s'appelle Alzira. C'est une tragédie, je vais y arriver hein, ce matin, ça ne va pas du tout. C'est une tragédie lyrique en deux actes sur un livret de Salvatore Camarano, tiré de la tragédie de Voltaire, Alzire ou les Américains, et créé au Teatro San Carlo de Naples en août 1845. En fait, au printemps 1844, Verdi reçoit une commande de Vincenzo Flauto, l'impresario du Théâtre San Carlo de Naples. Verdi accepte, mais à la condition de choisir ses interprètes. Le travail de composition s'étire parce que Verdi est souffrant et la soprano qu'il avait choisie, Tadolini, est enceinte. Fin juin 1845, le compositeur est à Naples pour parachever sa partition. L'histoire. Au Pérou, c'est au XVIe siècle. L'histoire se déroule chez les Incas, sous domination espagnole. Le pays est dirigé par le vieux gouverneur espagnol Alvaro, dont le fils Guzmán se montre cruel avec les Indiens, particulièrement avec une tribu rebelle dirigée par le chef Zamoro. C'est précisément à Zamoro qu'est promise une princesse Inca, Alzira, faite prisonnière par les Espagnols. Sans être un fiasco, l'œuvre ne rencontra pas vraiment le succès escompté. Et les reprises furent rares. Elle disparut d'ailleurs de l'affiche des théâtres italiens dès 1858 pour ne réapparaître que furtivement à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Donc, cette ouverture de Alzira, qui en fait est appelée Sinfonia, je vous la livre tout de suite. Eh bien, c'est sur cette formidable Sinfonia d'Alzira que je vais vous quitter ce mercredi. On se retrouvera, on va se retrouver mercredi prochain, hein, j'espère bien. Et on retrouvera avec nous Giuseppe Verdi. Et vous verrez avec d'autres extraits. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.